7000 magasins participent à la grande collecte des Restos du Cœur qui démarre demain. Les bénévoles seront à pied d'œuvre pour vous aider dans vos achats. Tout comme les Enfoirés que vous retrouverez en concert demain également sur TF1 en simultané sur France Bleu. Soyez les bienvenus dans France Bleu Soir jusqu'à 20h. Vous les entendrez, ces Enfoirés. Kenji Girac, Slimane, Jean-Baptiste Monnier, des choristes et soprano, après le journal de Nicolas Ballu. Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, la condamnation et la démission du cardinal Barbarin.
La justice lui reproche d'être resté silencieux au sujet des actes pédophiles de l'un des prêtres de son diocèse. Vous entendrez le soulagement de l'une des victimes du père Prénat. Et puis Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du journal La Croix, est notre invitée. Elle va nous aider à comprendre la signification de ce jugement. Dans ce journal également, nous irons dans les Alpes de Haute-Provence, à Gréoux-les-Bains. Emmanuel Macron participait à un débat sur l'écologie, mais les vraies stars ont été les enfants, nous dira Marie-Julie Lecomte. Les enfants, il en sera question également au lendemain de la défaite et de l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Très peu de gamins portaient le maillot de foot parisien cet après-midi. Et puis, nous accompagnerons trois vétérans britanniques sur les plages du débarquement. Ils ne sont pas très jeunes, ils ont 281 ans à eux trois. Arnold, ce soir, les Enfoirés sont là.
Oui, beaucoup plus jeunes, hein, évidemment. Kenji Girac, Slimane, Jean-Baptiste Monnier, soprano vous attendent juste après le journal que voici.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Nicolas Ballu.
19h01, une fois n'est pas coutume, démarrons avec du football. Nicolas, les footballeurs de Rennes affrontent en ce moment même Arsenal.
Et oui, ce sont les huitièmes de finale de la Ligue Europa. En ce moment, les France-Angleterre ne réussissent pas trop en français et battre les Londoniens d'Arsenal serait un grand exploit pour les Bretons. Le match vient de démarrer il y a quelques minutes et déjà 1-0 pour Arsenal.
Ah oui. L'autre confrontation franco-anglaise a tourné au vinaigre hier soir. Le PSG a été éliminé par Manchester United.
Et il faudra du temps pour panser les plaies après l'incroyable défaite 3-1. Les joueurs vont prendre un peu de temps auprès de leurs proches. Et les plus jeunes qui font du foot, qu'en pense-t-il? Valentin Dunat est allé assister à un entraînement des moins de 12 ans du football club de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne.
Au bord du terrain, Marvin Gomis, l'entraîneur, se sert de ce match du PSG comme un match référence pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire.
Pourquoi certains vous marchez? Je pensais que le match d'hier, ça vous avait servi de leçon. Vu que mes joueurs aiment le Paris Saint-Germain, la plupart, c'est aussi pour leur faire comprendre que voilà, même chez les plus grands, quand les efforts, c'est pas bien fait, en général, ça paye pas.
Et comme par hasard, pour cet entraînement, aucun des joueurs n'a osé porter le maillot du PSG.
C'est ça, on est déçus et à chaque fois, on se relance, on se dit qu'ils vont pouvoir gagner et au final, ils se font éliminer.
Quelques-uns ont tout de même timidement osé mettre le short à l'effigie du Paris Saint-Germain. Le maillot, lui, est resté à la maison, le temps de digérer la défaite, mais ses deux fidèles supporters y croient toujours.
Bah, c'est pas grave quand même, Manchester United, c'est quand même un bon club. Hein.
Tu vas continuer à porter le maillot du PSG?
Ouais, mais là je l'ai pas sur moi, parce qu'il est sale.
Ouais. Je mets que le bas, pas le haut. Il était sale, je l'avais mis l'autre jour.
Dis la vérité, y a pas un côté un peu honte du PSG?
Un peu, mais ça passe.
Mais avant que ça passe, il faut tout de même accepter les critiques et les moqueries des supporters des autres clubs, notamment de Marseille.
Il y a une différence entre Paris et l'OM. Je trouve que c'est assez vite comparé à Marseille qui a déjà son étoile.
Ouais. Bref, vous l'aurez compris, comme chez les grands, les jeunes Parisiens se font aussi chambrer.
Ah, et PSG, l'exemple à ne pas suivre. Cette autre info qui réjouira les fans de foot, Léo Messi de retour dans la sélection argentine. Le footballeur s'était mis en retrait après une Coupe du Monde ratée pour les Argentins.
Il est 19h03, bien moins léger. Ce coup de tonnerre dans l'église.
Le cardinal Barbarin condamné par la justice à 6 mois de prison avec sursis. Le prélat est condamné pour son silence dans l'affaire Prénat. Le père Prénat est ce prêtre accusé d'agression pédophile sur des scouts. Il n'a pas encore été jugé. En revanche, la justice considère que Philippe Barbarin, bien que prévenu, a surtout voulu protéger son institution et n'a pas dénoncé les agissements du père Prénat. Laurent Duverger fait partie des victimes du père Prénat. Il est membre de l'association La Parole Libérée. Pour lui, ce jugement est un soulagement.
Bien sûr que c'est un soulagement, c'est la récompense d'un combat ardu qui nous a bouleversés, qui a bouleversé la vie de beaucoup de monde, de nos familles, de nos amis. Ça a été une mise en péril de chaque instant. Nous, on aspirait qu'à une vie tranquille, une vie discrète. On se retrouve aujourd'hui face aux caméras. Un mot quand même pour nos épouses et pour nos familles qui ont été toujours là pour nous soutenir et je crois qu'elles le méritent vraiment. Donc un grand merci à elles. Les lignes bougent enfin. On a eu une grande victoire déjà l'année dernière avec le délai de prescription qui était allongé. Aujourd'hui, un cardinal est condamné. La justice, aujourd'hui, écoute les victimes. Non seulement les écoute, mais les entend vraiment. Et justice leur est rendue.
Laurent Duverger, l'une des victimes du père Prénard.
De son côté, l'avocat du cardinal Barbarin dénonce ce qu'il appelle la pression médiatique.
Quant à Philippe Barbarin lui-même, il a aussitôt annoncé qu'il présenterait sa démission au pape. Donc double coup de tonnerre, les temps ont changé pour l'Église, affirme l'une des victimes. De tout cela, nous allons parler avec Isabelle de Gaulmin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix. Vous connaissez également bien cette histoire puisque vous avez écrit un livre, Histoire d'un silence. Isabelle de Gaulmin, nous avons à la fois une condamnation et une démission. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là un tournant majeur dans l'Église, plus exactement dans l'Église de France? Est-ce que les temps ont vraiment changé?
Oui, enfin les temps sont en train de changer quand même depuis longtemps, depuis on va dire 2015-2016, depuis que l'association La Parole Libérée a commencé à faire tout ce travail pour pour dire qu'il y avait beaucoup de victimes, pour dire qu'on n'avait rien dit, pour dire qu'il fallait dire les choses, et le fait de cette libération de la parole a quand même permis à l'Église enfin de s'adapter, de commencer à adapter ses procédures, etc. Alors là, on arrive un petit peu à l'aboutissement de toute cette phase-là, et effectivement c'est une décision de justice, donc pas de l'Église au départ. C'est la justice qui prend cette décision et qui dit que finalement, un évêque est responsable de ses prêtres. Il doit les dénoncer dès qu'il entend quelque chose. Il n'a pas, lui, à juger de la prescription. C'est à la justice de le décider. Et doit dénoncer même s'il s'agit de cas très, très anciens.
Et il y a d'ailleurs eu ce sommet ecclésiastique au Vatican contre la pédophilie il y a quelques jours. Dans le fond, est-ce que ce genre de décision de justice ne fait pas changer les choses plus rapidement que ce genre de sommet?
Oui, alors c'est les deux. C'est vrai que ce sommet, il a lieu parce qu'il y a eu des victimes qui ont protesté depuis des années aux États-Unis, dans d'autres pays, en Allemagne, etc., et aussi en France. Et puis parce qu'il y a eu des décisions de justice dans tous ces pays aussi. Donc finalement, l'Église, elle s'adapte aussi à toutes ces décisions de justice. C'est sûr que cette décision de justice, si vous voulez, elle aurait pas pu être la même il y a 10 ans. Elle montre qu'il y a une évolution aujourd'hui de la jurisprudence très forte en France, qui fait que on ne tolère plus que des gens qui entendent parler d'un pédocriminel ne fassent pas un signalement à la justice. Voilà. Donc c'est à la fois la justice qui évolue, l'Église qui évolue et la société finalement qui évolue.
Alors la justice considère que Mgr Barbarin a fait le choix en conscience, je cite, de ne pas faire remonter les cas aux autorités judiciaires pour préserver l'institution. Alors il a démissionné là, il y a quelques heures, mais il fait appel du jugement. Comment on peut comprendre ce qui peut paraître contradictoire ?
Je pense que le cardinal Barbarin l'estime trop sévère pour lui, et c'est ça. Mais d'un point de vue, ça c'est d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue, on va dire, professionnel, d'un point de vue de l'Église, quoi qu'il en soit, il ne peut plus rester à la tête du diocèse, et ça je crois que comme c'est quand même quelqu'un qui est responsable et qui a le sens de l'Église, il voit bien ça, il ne peut plus rester parce qu'il est clivant, parce qu'il divise, parce qu'on ne peut plus avancer dans ce diocèse. Donc maintenant, voilà, il faut absolument que ce diocèse tourne la page, passe à autre chose. Aujourd'hui, si vous voulez, cette affaire-là, elle empoisonne l'ensemble des activités de l'église de Lyon, qui est quand même une très grosse église.
Isabelle de Gaulmin, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions dans ce journal des 19h. Bonne soirée à vous.
Il est 19h08 dans la suite du journal de Nicolas Ballu. On vous emmènera sur les plages du débarquement avec 3 vétérans britanniques. On va également se pencher sur le sexisme et le harcèlement dans le journalisme. C'est un secteur qui n'est pas épargné. Mais tout à l'heure, tout d'abord, Nicolas, encore un nouveau débat pour Emmanuel Macron.
Oui, un de plus. Mais celui-ci était un peu particulier. Il s'est déroulé dans les Alpes de Haute-Provence, à Gréoux-les-Bains, dans une grande salle, des élus locaux, mais aussi des jeunes, des agriculteurs. Un thème, l'écologie, et des questions qui vont de la voiture électrique à la gestion intercommunale de l'eau. Et puis, cette petite phrase du chef de l'État, il faut aller plus fort et plus vite dans la transition écologique. Oui, mais au-delà de ce qui ressemble un peu à des propos d'estrade, Julie-Marie Lecomte, Emmanuel Macron a eu un peu de mal à convaincre les plus jeunes.
Et ce sont les ados les plus offensifs.
Des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourrait acheter une nouvelle planète avec de l'argent?
La réponse du président est nettement moins pugnace.
Charlie, tu m'as dit vous avez le pouvoir sur l'épée. Non, pas totalement. Moi, si je dis, par exemple, demain en France, plus un pesticide, je dois en même temps pouvoir dire, la France, elle importe plus aucun produit où il y a un pesticide. Ce qui est quasiment impossible. Je peux pas du jour au lendemain dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Je ne peux pas être dans le 0-100.
Vous êtes prisonnier de votre propre système, attaque cette agricultrice de la Confédération paysanne.
Votre gouvernement défend un modèle néolibéral et capitaliste. Ce n'est pas vraiment compatible avec une écologie de fond. Ce n'est pas compatible avec l'urgence écologique qu'il y a aujourd'hui.
Si, répond Emmanuel Macron en accusant son interlocutrice de caricaturer le modèle qu'il défend. Un modèle, dit-il, de transition qui n'est pas de sortir du jour au lendemain de l'économie de marché.
Emmanuel Macron n'en a pas encore terminé avec le grand débat. Le président doit rencontrer les élus de Corse, de Bretagne, des Pays de Loire et des Hauts-de-France.
Le harcèlement, le sexisme ne sont pas l'apanage d'un seul secteur. Hein, ça existe partout.
Bah oui, donc dans le journalisme aussi. Trois associations de femmes journalistes, prenons la une, Nous Toutes et Paye Ton Journal, publie une enquête aujourd'hui sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans les rédactions. 1800 réponses dans 300 médias différents. Le sexisme existe massivement dans les rédactions, selon Agathe Rank, journaliste à l'Obs. Selon elle, le phénomène touche tous les milieux professionnels parce que les salariés femmes sont davantage précaires.
On a eu plusieurs témoignages, enfin plusieurs personnes qui nous ont dit « Ah bah tiens, faudrait le faire dans mon milieu parce que c'est la même chose. Ouais. » En fait, effectivement, le sexisme, c'est partagé dans tous les milieux. À partir du moment où il y a une domination économique, il y a une domination sexiste. Et c'est particulièrement violent dans le journalisme parce qu'il y a beaucoup de précarité, beaucoup de personnes en CDD, en pige. Et c'est surtout des femmes. La très grande majorité des personnes en pige sont des femmes. Et donc, plus il y a de la précarité économique, plus c'est difficile de parler et d'être écouté quand il nous arrive quelque chose comme ça.
Et alors, n'oubliera pas que demain, c'est la journée internationale des droits des femmes.
Un important dispositif de police déployé en Mayenne pour retrouver des braqueurs.
Des braqueurs armés. Ils sont en fuite après une longue course-poursuite. Ça s'est passé à Bonchamp-lès-Laval. Plusieurs hommes à bord d'une BMW noire braquaient un camion quand les forces de l'ordre sont arrivées. Les policiers ont ouvert le feu sur la voiture. Qui fonçait sur eux. Dans leur fuite, les braqueurs ont perdu leur cargaison. Des stupéfiants qui se trouvaient dans le camion. Un bébé de 18 mois retrouvé seul à un arrêt de bus du quartier Montgaillard au Havre, frigorifié mais en bonne santé. Apparemment, il avait échappé à la vigilance de sa grand-mère. C'est un riverain qui l'a retrouvé. Il l'a amené le bébé au commissariat et il a retrouvé le bébé, sa famille. Je vous propose de continuer ce journal en compagnie de trois vétérans britanniques de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, ils s'appellent Frank, Bill et Frédéric.
Ouais, ils sont venus sur les plages du débarquement à Pegasus Bridge, plus exactement au mémorial de Ranville. Ils ont pu faire le déplacement grâce à l'association The Taxi Charity, association anglaise qui transporte les vétérans sur les lieux de mémoire. C'est une belle histoire que nous raconte Nolwenn Lejeune.
Il y a 75 ans, ils s'apprêtaient tous à accomplir des actions héroïques, atterrir en planeur à Ranville, être parachutés sur la batterie de Merville ou comme Frank, combattre sur Pegasus Bridge.
Jean.
My name's Frank.
75 ans plus tard, le vétéran salue les plus jeunes visiteurs du musée.
I like to try and think of the children.
J'espère que ce qu'on a fait a été une bonne chose pour eux. Ce sont eux qui me préoccupent aussi longtemps que je pourrais.
Mais quand il s'agit d'évoquer concrètement ce qu'il a fait le 6 juin, la voix du vieil homme se brise.
Ça fait pourtant des années que c'est arrivé. Et je vois encore leur visage, les corps déchiquetés, tout ce qu'il s'est passé. Et je continue d'espérer que jamais ça ne se reproduise. Mais les guerres continuent.
Frank prend ensuite la pose à côté de Yann, son bébé dans les bras. Le jeune homme qui n'est pas seulement impressionné par le plastron bardé de médailles du vétéran.
Je ne sais pas moi-même si j'aurais eu ce courage. Et dans ma vie personnelle, dans les moments difficiles, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des repères. Et bien souvent, je pense à ces personnes, que ce soit des Français, des Américains, des Anglais. Ça me touche.
Encore alerte pour ses 93 ans, Frank sera là le 6 juin prochain. Et avec Bill et Frédéric, ils s'entraînent déjà pour ambiancer les commémorations.
Et on n'oublie pas que les Britanniques ont été et restent des alliés, pas seulement des adversaires de foot et de rugby. Ils chantent bien, hein, les vétérans britanniques, vous les avez entendus, mais je vous propose une autre musique. Arnold, j'imagine que vous imaginez laquelle.
On trace, on trace, on trace.
On l'entend pas mal en ce moment, celle-ci,
la chanson des enfoirés. Bah oui. Il faut dire que les Restos du Cœur lancent leur collecte nationale demain. Et puis France Bleu diffuse leur concert demain également.
Oui, demain sur TF1, 21h. En simultané sur France Bleu. Hein. Le mieux, c'est d'allumer la télé, vous aurez l'image, et puis de mettre le son dans la radio France Bleu.
Parce que c'est parfait comme ça.
Un son bien meilleur, hein, je vous le dis comme ça. Merci Nicolas Ballu pour toutes ces infos. Justement, on reste dans le thème les Restos du Cœur avec les enfoirés qui arrivent après cette courte pause météo.